Le 7-9.
Tous les ans, au mois de septembre, la France fait sa rentrée littéraire et on peut s'en réjouir, les valeurs de l'époque n'étant pas nécessairement à la lecture silencieuse. Deux auteurs au micro d'Inter aujourd'hui, Alice Zeniter et Lola Lafont. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et bienvenue dans une maison qui aime les livres. Vous figurez sur la liste de la rentrée littéraire concoctée depuis longtemps maintenant par le JDD et Inter. On vous dévoilera cette liste à 8h40. Alice Zeniter, vous publiez L'art de perdre chez Flammarion. Lola Lafont, vous publiez Merci Marie Patti chez Actes Sud. Petite question sur le moment dans lequel on se trouve, dans lequel vous vous trouvez, quand le livre quitte celui ou celle qu'il a écrit, qu'il trace sa route vers le public. C'est un moment émouvant, effrayant, mélancolique. C'est peut-être pas le bon mot, je vous laisse les vôtres. Lola Lafont.
C'est exactement les trois choses que vous venez de dire. C'est à la fois... très affolant parce qu'on ne sait pas quelles vont être les réactions. C'est en même temps mélancolique parce qu'il faut quitter un monde qu'on a adoré, dans mon cas, pendant 2 ans. Voilà. Et puis c'est aussi très excitant parce que moi j'aime bien aller à la rencontre des lecteurs.
Et pour vous, Alice Zeniter ?
Je suis assez d'accord aussi, c'est-à-dire...
Vous avez la boule au ventre aussi, à la gorge.
C'est une hâte, c'est une envie qui peut être très joyeuse parce qu'on se dit que le livre va enfin prendre son existence entière au moment où il va rencontrer les lecteurs. Et en même temps, ça sonne définitivement le glas du processus d'écriture. On ne peut plus y retoucher, il n'est plus à nous, on n'est plus en train de le retourner dans tous les sens, ça y est, il est fini.
Il faut faire le deuil de ce livre écrit.
Il faut faire le deuil du fait que c'est un processus d'écriture qui n'appartient qu'à nous et qui serait toujours changeable. Ça y est, c'est on peut plus y toucher.
Alors on va parler de vos livres. On commence avec vous, Lola Lafont, au cœur de votre dernier roman, Un fait divers qui a sidéré les États-Unis en 1974. Je le décris en quelques mots, l'enlèvement de Patricia Hearst, Patty Hearst, la petite fille du mania de la presse William Randolph Hearst. Elle a été kidnappée par l'armée de libération symbionnaise, l'ALS, qui ne réclame pas de rançon pour commencer.
Oui.
Redites-nous un peu cette histoire qui est un moment incroyable de l'histoire des États-Unis.
C'est vraiment un moment incroyable parce que c'est un moment où une jeune fille de 19 ans va renverser l'Amérique et qu'il va y avoir une vraie fracture entre adultes et adolescents de son côté. Elle est une fille de milliardaire, il possède toute la presse, elle est enlevée par un groupe marxiste complètement inconnu. Ils ont plus ou moins son âge, ils ont une vingtaine d'années. Et la surprise, c'est que quelques semaines après son enlèvement, elle se convertit à leur cause. Et donc, elle devient marxiste et elle renvoie à ses parents, à l'Amérique, une image de même... extrêmement négative. Elle remet en cause le capitalisme.
Et on dit syndrome de Stockholm. Elle a fini par épouser les thèses de ce groupe parce qu'elle est enfermée sous leur influence. Et
ça,
c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et c'est là que commence le roman.
Tout à fait.
Et allez-y, oui.
Oui, parce que...
Qu'est-ce que vous vouliez explorer, alors ?
En fait, ce qui m'intéressait, c'est la question du choix. D'abord, est-ce qu'on peut vraiment savoir quand est-ce qu'on fait un choix ? Ce qui est intéressant aussi, c'est l'impossibilité qu'ont les gens d'admettre quand une femme fait un choix radical. C'est-à-dire, effectivement, elle a peut-être fait un choix qui ne nous convient pas. Elle fait un choix choquant, mais peut-être qu'elle l'a fait. Et finalement, ce qui est très frappant dans l'affaire de Patricia Hearst, c'est qu'examine les deux héroïnes du roman, puisque ça parle plutôt du procès. Le procès, les avocats avaient une option, c'était le lavage de cerveau. Elle savait pas ce qu'elle disait. Sauf que là, en fait, ce qu'elle renvoie comme question, c'est qu'avant, elle était aussi prisonnière dans son milieu. Finalement, elle est prisonnière dans son milieu d'ultra-riche. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle trouve la liberté en étant enlevée. Elle trouve une certaine liberté parce qu'elle est confrontée à des nouvelles idées, parce qu'elle découvre qu'en Amérique, on meurt de faim. Elle découvre des thèses communistes, effectivement. Et voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était le paradoxe d'une jeune fille qui, tout d'un coup, va renvoyer une image à l'Amérique d'elle-même qu'elle n'aime pas regarder.
Et le livre, la littérature, c'est ce qui permet, en fait, de rouvrir les destins et de montrer qu'elle n'était pas nécessairement folle, elle n'était pas nécessairement mineure, elle a peut-être fait un choix
oui,
de vie.
Oui, elle a peut-être fait un choix, et puis ça nous renvoie à un miroir qui n'est pas... c'est finalement... Quelle part de nous-mêmes nous appartient vraiment ? C'est-à-dire, quand il y a la théorie du lavage de cerveau, on peut se demander, mais oui, d'accord, ok, alors ils lui ont lavé le cerveau, mais nous, est-ce qu'on n'a pas subi un lavage de cerveau par l'éducation, par l'école, par les médias ? Donc les avocats s'affrontent, et mes héroïnes aussi s'affrontent pendant tout le roman sur cette question du choix et du libre arbitre, finalement.
Ali Zeniter, Ali Hamid Naïma, trois générations qui ont en commun l'Algérie et la France, mais ni la même Algérie, ni la même France, évidemment. Comment s'est imposée chez vous l'idée d'écrire cette généalogie ?
En fait, à travers les trois générations, ce que je pouvais retracer, c'était aussi une histoire de l'immigration et de montrer comment elle s'inscrit dans un temps très long. Que si on veut penser l'immigration algérienne en France, il faut peut-être qu'on commence à la colonisation, à ce que c'est d'avoir grandi dans un pays colonisé. Il faut aussi qu'on passe par le temps de la France froide, sur rencontrer le pays dans lequel on va vivre, dans lequel on va construire sa vie et se confronter à toutes les duretés, à tous les obstacles en fait qui se placent sur le parcours de l'immigré ou du migrant, voir ce temps extrêmement long de l'immigration qui veut dire apprendre une langue, apprendre les codes, apprendre aussi malheureusement à vivre avec ce regard sur la peau bronzée, sur les cheveux crépus qui tout le temps vous décrédibilise.
Et vous renvoie à une histoire et une géographie qui n'est pas nécessairement la vôtre, ou en tout cas pas au sens où on pourrait l'imaginer, pas directement son histoire, sa géographie. Anaïma, c'est la France.
Oui, et elle est prisonnière d'une injonction dans la société, le fameux d'où tu viens égale qui tu es. Et pour Naïma, ça n'est pas vrai, mais c'est extrêmement compliqué. Voilà, dans la France contemporaine, surtout post-attentat, où la question de l'islam, de l'immigration, de est-ce qu'on a donné une place ou non à ces gens se pose tout le temps, et on la prend à partie comme si elle était un témoin particulier, alors qu'elle voudrait dire mais je suis que Naïma, et c'est déjà énorme, c'est déjà une grande question de savoir qui est Naïma, sans qu'on me renvoie à des données géopolitiques que j'aurais à analyser mieux que les autres parce que je suis bronzée.
Il y a quand même un point commun entre Patty Hearst et sa capacité à inventer, réinventer sa vie, la réécrire, faire un choix, prendre une décision à un moment. Et Naïma aussi. Elle n'est pas que ce dont elle a hérité. Elle n'est pas que son grand-père. Elle n'est pas que son père. Elle n'est pas que l'Algérie. Elle se réinvente, elle aussi, en relisant cette histoire.
Moi, je crois que les deux livres posent très clairement...
sont deux femmes.
Oui, mais posent clairement des mêmes question. Quand j'écoutais Lola en parler, je me disais mais oui, c'est évident, la question de qu'est-ce que c'est faire un choix, et donc la question de tout le temps penser aussi une trajectoire de vie entre déterminisme et liberté.
Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de Rançon. Ce que ces ravisseurs ont fait de génial, parce que c'était des maîtres en communication, c'est qu'effectivement, ils ont fini par demander une rançon, mais ils l'ont utilisée pour nourrir les gens qui n'avaient pas à manger en Californie. Et c'est sans doute ce qui, elle, l'a retournée. Parce qu'elle a vu que, contrairement au monde dont elle venait, hyper étriqué de milliardaires qui vivaient dans l'opulence, ces ravisseurs veulent nourrir les autres. Donc qu'elle les rejoigne, ça s'explique aussi.
Une dernière question à Alice Zeniter avant la revue de presse. On se retrouve évidemment à 8h40 pour continuer notre dialogue. L'Algérie, c'est un pays, évidemment, mais est-ce que ça n'est pas aussi un très bon synonyme de roman ?
Si, puisque ce que le livre montre, c'est que finalement l'Algérie est le nom de toutes les fictions. C'est tout ce que les gens se racontent sur l'Algérie, et évidemment pour les trois générations c'est différent, mais dès le départ, pour les pieds noirs, pour les indigènes, pour les supplétifs, pour l'armée française, pour les appelés, etc., ça n'est déjà pas du tout la même chose qui se raconte sous le terme d'Algérie. Donc c'est la fiction multiple qui offre à se déployer.
Allez, merci à toutes les deux. Donc rendez-vous à 8h40 avec les auditeurs de France Inter. Vous pouvez intervenir au 01 45 24 7000, ou avec le mot-clé le 79 Inter. Il est 8h30.